Bien, je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux pour une conférence du Collège de France. J'ai le grand plaisir, doublé du grand honneur, ou je ne sais pas dans quel ordre les mettre, de faire venir mon ami M. Demeldem qui va nous parler donc de l'Empire ottoman, la Turquie et la question des modernités. Monsieur Eldem peut être considéré comme l'un des plus grands ottomanistes francophones contemporains. Il est turc de nationalité, mais il considère que le français est sa langue maternelle, et vous verrez en tout cas qu'il le parle de façon admirable. Son champ de parcours est relativement vaste, puisqu'il a commencé par travailler sur le commerce français dans l'Empire ottoman au XVIIIe siècle, pour ensuite élargir ses perspectives à différents domaines. D'abord, dans la continuité dans le domaine de l'histoire économique, avec en particulier une histoire de la banque ottomane, qui l'amène donc sur la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Tu dépasses la date de la fin de l'Empire
Pour moi, l'histoire s'arrête un peu en 1914. C'est un choix très personnel.
Et en dehors donc du domaine, il a beaucoup travaillé sur quelque chose qui est un peu en cheville entre la vie matérielle et les arts ottomans, par exemple la question des décorations, comment les décorations de type occidental se sont implantées dans l'Empire ottoman dès le début du 19e siècle. Et il a aussi travaillé sur toutes ces questions d'échanges culturels complexes qui se construisent depuis le début de l'Empire ottoman, évidemment, mais surtout au 19e siècle. Et dernièrement, il a aussi ouvert un champ sur l'histoire de l'archéologie dans l'Empire ottoman, avec le côté novateur qui était de voir comment les Ottomans considéraient l'archéologie européenne dans l'Empire avant 1914. Alors, il a publié de très nombreux articles, mais comme c'est aussi un commissaire d'exposition, beaucoup de ses ouvrages sont des catalogues d'exposition sur différents sujets. Il a donc quelqu'un qui est à la croisée assez rare de l'histoire économique, de l'histoire culturelle et de l'histoire artistique. Évidemment, comme il est professeur à l'université du Bosphore, je suppose que ses enseignements sont plus généralistes sur l'histoire ottomane dans ses fonctions dans son pays. Je te cède la parole.
Merci beaucoup. Une petite salle comble ou une grande salle à moitié vide, c'était un dilemme, mais je crois que c'est très bien comme ça. C'est un très grand honneur et un véritable privilège que de pouvoir parler dans cette prestigieuse institution et devant un auditoire aussi distingué. Je dois tout d'abord en remercier le Collège de France, notamment la personne de son éminent administrateur. Et plus particulièrement, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance envers mon collègue Henri Laurence, qui a eu l'amabilité de m'inviter à faire cette conférence dans le cadre de sa chaire sur l'histoire contemporaine du monde arabe. C'est là, bien sûr, un domaine proche de mes propres préoccupations. Toutefois, en tant qu'historien de l'Empire ottoman, et dont les intérêts chevauchent les périodes modernes et contemporaines, je tiens absolument à saluer la mémoire d'un collègue et ami qui, de 1999 à 2013, a occupé la chaire d'histoire turque et ottomane au Collège de France. Je veux parler de Gilles Weinstein, dont la disparition, il y a un an, presque jour pour jour, a laissé un vide impossible à combler. Notre discipline a perdu un de ses savants les plus brillants et les plus érudits. La turcologie française a perdu l'acteur principal de son rayonnement et de la formation de générations de jeunes chercheurs. Ceux qui ont eu la chance de le connaître de près ont perdu un homme d'une finesse et d'une gentillesse au-dessus de tout. Le titre que j'ai choisi pour cette conférence peut paraître très, voire trop général. De ce fait, il pourrait sembler ambitieux et arrogant. Je commencerai donc par m'en expliquer, faute de pouvoir m'en excuser. Je suis historien, mais avec une prédilection pour une pratique quelque peu artisanale de l'histoire. Le document me fascine, le texte et la parole qui s'y dessinent me passionnent, le moment me captive, bref, le détail est au centre de mes préoccupations. Et s'il est vrai que le diable s'y cache, c'est peut-être là que je dois rechercher la cause de ce penchant. Toutefois, au-delà d'un choix somme toute très personnel, je veux croire que cette tendance marquée pour une échelle fort réduite de l'histoire ne se limite pas à une forme de paresse ou d'incompétence face aux défis de la synthèse et de la généralisation. Je pense que le détail, après avoir constitué le fondement d'une conception très traditionnelle et désormais dépassée de l'histoire ottomane, fait aujourd'hui les frais d'un mouvement de balancier, le pendulum swing des anglo-saxons, qui exige que l'on brasse plus grand, plus large, et que l'on puisse briser le carcan d'un pointillisme nombriliste au profit d'une plus grande contextualisation et d'une approche à la fois plus synthétique et plus théorique. Il serait idiot de s'insurger contre cette tendance non seulement légitime, mais aussi extrêmement productive. Après tout, c'est grâce à de telles tentatives, souvent réussies, que l'histoire ottomane est parvenue à se désembourber du provincialisme et de l'exceptionnalisme qu'il a si longtemps grevé. C'est ainsi qu'on a pu se libérer de certaines visions essentialistes de l'Empire ottoman, et remettre en question des schémas historiographiques qui l'excluaient ou du moins le plaçaient en marge d'un récit européen, occidental ou tout simplement mondial. Rappelons que Fernand Braudel fut un des premiers à proposer une relecture de l'histoire moderne qui incluait les Ottomans ou qui, plus encore, ne pouvait se comprendre sans eux. Jusque-là, si cet empire était apparu dans l'historiographie occidentale, c'était essentiellement comme différent et exotique, comme autre et incomparable, comme opposé et incompatible, et comme attardé et colonisable. Cette marginalisation des réalités ottomanes ne saurait être imputée uniquement à l'écriture occidentale de l'histoire. Les historiographies locales y ont grandement contribué. La Turquie, longtemps détentrice d'un monopole de fait sur un passé que d'autres héritiers avaient tout simplement répudié, se mit à réécrire cette histoire avec force particularisme pour l'adapter à un récit national ou, au contraire, à l'évacuer complètement par zèle d'occidentalisation et de laïcité, avec pour conséquence un regard quasi-orientaliste porté sur ce passé. Quant aux autres héritiers, notamment dans les Balkans, ils ont soit tendu à faire l'impasse sur environ 4 siècles d'histoire, créant ainsi une sorte de vide historique, soit érigé l'Empire ottoman en une sorte de force négative, dont la contribution majeure avait été de stopper le développement « normal » entre guillemets de cette partie de l'Europe et la sevrer de fait d'une réussite entre guillemets aussi, qu'elle aurait dû partager avec le reste du continent. Non sans ironie, pour opposer que fussent ces deux visions, elles n'en convergeaient pas moins dans la manière dont elles finissaient par isoler l'Empire du reste de l'Europe et, de fait, du reste du monde. Nous pouvons désormais nous réjouir de ce que ces versions stériles de l'histoire, sans pour autant avoir disparu, sont désormais de plus en plus intellectuellement dévalorisées et marginalisées par des théories et des approches beaucoup plus sophistiquées qui recherchent une complexité capable de contrer ou de remettre en question le caractère contraignant et univoque de ces modèles d'un autre temps. Non sans surprise, c'est la question de la modernité qui s'est particulièrement bien prêtée à cet exercice. Évidemment, en raison de la place centrale qu'elle a généralement occupée dans la puissante dichotomie entre un Occident capable et générateur de modernité et un Orient stagnant et incapable de changement sans qu'il y soit poussé par l'occidentalisation. La théorie des modernités multiples d'Eisenstadt a ébranlé l'idée d'une équivalence nécessaire et inévitable entre modernité et Occident et entre modernisation et occidentalisation. Dans un contexte plus historicisant, Je n'ai probablement pas besoin de rappeler que c'est ici même, au Collège de France, que Sanjay Subrahmanyam détient une chaire dont l'intitulé « Histoire globale de la première modernité » dit bien le succès de cette relecture de l'histoire d'un monde bien plus interconnecté et bien plus équilibré qu'on ne le pensait jadis. Dans le cas particulier de l'Empire ottoman, il ne fait aucun doute que ces nouvelles orientations ont porté leurs fruits. L'intégration de l'Empire ottoman dans un récit du monde méditerranéen moderne a fait de très grandes avancées. Dans la littérature anglo-saxonne, peut-être avantagée par le fait que la période moderne y est déjà qualifiée de précoce, early, le terme justement de early modern est de plus en plus facilement associé à celui d'ottoman. Le paradigme du déclin, qui dominait notre entendement de la transition du moderne au contemporain, est lui-même tombé en déchéance au profit de visions bien moins téléologiques, de flexibilité, de transformation et de résistance. Même dans le cas de périodes plus tardives, où l'influence occidentale et la volonté d'occidentalisation se font de plus en plus sensibles, pour devenir enfin incontournable, le modèle moderniste et presque rostovien des années 50, 60, 70 a fait place à une évaluation beaucoup plus critique de l'interaction de divers facteurs mondiaux, régionaux et locaux dans les grands changements survenus durant le dernier siècle et demi de l'Empire. Ainsi, de même que le XVIIIe siècle n'est plus systématiquement lu à travers le prisme du XIXe, de manière à y découvrir une sorte de prélude à l'occidentalisation, le XIXe siècle lui-même s'est à son tour en grande partie libéré et émancipé d'un discours monolithique qui ignorait ou minimisait des cas et des contextes de modernité multiples qui juraient avec le discours central de l'occidentalisation. Devant ce bilan positif de l'évolution de la discipline durant les dernières deux ou trois décennies, on pourra se demander ce que je peux bien reprocher et trouver à redire à la situation actuelle. Outre le fait que ces acquis n'ont pas encore pénétré la discipline au point de la transformer en profondeur et que par conséquent les anciens modèles ont encore la vie très dure, en Turquie comme dans le reste du monde, qui veut bien s'intéresser à la question, il est deux aspects que je considère être problématiques et que je mettrai en rapport avec la tension que j'évoquais au début de mon exposé entre le travail de détail et l'œuvre de synthèse. Il peut sembler paradoxal que le premier de ces deux problèmes ait trait au succès remporté par ces nouvelles approches et les représentations qui en découlent. Face au sentiment de frustration mêlé de dégoût provoqué par les schémas modernistes, orientalistes et essentialistes d'antan, la découverte de parallèles, de passerelles, de synchronismes et d'équivalences a provoqué un soulagement doublé d'une forme d'engouement pour cette nouvelle historiographie et ses promesses. Or, ceci n'a pas été sans produire un effet quelque peu pervers en attirant la recherche vers une problématique dont la nouveauté se doublait en quelque sorte d'une sanction morale dans le style du politically correct. Ceci alors que le défrichement des sources ottomanes est encore bien incomplet et imparfait, tend parfois à perturber l'équilibre et les rapports souhaités entre la documentation et le questionnement. Plutôt que de confier à une exploitation systématique et exhaustive des sources disponibles le soin de répondre à des questions de fond, on préfère désormais souvent s'en tenir à quelques auteurs et documents sûrs dont on sait qu'ils iront dans le sens de ce qu'il faut désormais prouver. Caricature, un peu, bien sûr, mais pour continuer sur cette lancée, posons donc la question hypothétique de savoir ce qu'il adviendrait de la trame de notre histoire ottomane moderne si nous venions à perdre une poignée d'auteurs et d'artistes tels que le bureaucrate Mustafa Ali, l'architecte Sinan, le navigateur Piri Reis, le voyageur Evliya Çelebi et l'encyclopédiste Kiratip Çelebi. Le second problème est plus ou moins lié au premier, puisqu'il s'agit de l'excès d'européocentrisme caractérisant ces dernières tendances. En effet, bien que cette nouvelle historiographie essaye de contrer un récit centré sur l'Occident, ou plutôt à cause de cet objectif, la plupart des problématiques abordées finissent par reproduire une vision occidentale des choses. Ainsi, s'évertuera-t-on à prouver que les Ottomans ont eu une politique consciente, consistante et cohérente dans l'océan Indien, qu'ils se sont intéressés au Nouveau Monde, que des marchands musulmans ont été présents sur les marchés occidentaux. Bref, que l'Empire ottoman, contrairement à ce que l'on aurait pu penser, n'a pas manqué à l'appel des grands rendez-vous de la modernité, surtout dans sa version première. Cette approche finit par amplifier le problème en le repoussant vers des périodes où l'écart entre les Ottomans et l'Europe sur ces questions s'est désormais creusé au-delà de toute possibilité d'explication. Mais elle pêche aussi sérieusement par son insistance sur des critères de modernité trop littéralement empruntés aux grands récits européens. Or, l'Empire ottoman ne possède-t-il pas déjà assez d'éléments structurels permettant de le qualifier de moderne sans avoir recours à une sorte de mimétisme de certains aspects très particuliers de l'épopée européenne ? Lorsqu'on sait que la modernité de l'État résidait essentiellement dans la capacité de ce dernier à mobiliser ses ressources fiscales et à en créer de nouvelles afin d'alimenter un appareil bureaucratique et militaire assez sophistiqué pour parvenir à gérer des territoires de plus en plus étendus et des populations de plus en plus diverses, n'a-t-on pas déjà là un exemple flagrant de modernité qui rend quelque peu marginale la découverte de quelques marchands musulmans à Venise et l'étude des rares campagnes de la flotte ottomane dans les mers orientales ? D'une manière générale, pourquoi attachons-nous plus d'importance et de valeur aux cas qui mettent les Ottomans en contact ou en concurrence avec l'Europe ou qui permettent une comparaison équilibrée entre ces deux mondes qu'aux exemples pourtant fréquents d'épanouissement et de développement tournés vers d'autres horizons ou tout simplement vers l'intérieur de cet empire si vaste et différencié. Une réponse assez évidente se dessine dans le fait que l'histoire est inévitablement lue à rebours et que la véritable question porte sur les relations entre Ottomans et Européens à une époque plus tardive, à partir du XVIIIe siècle. Or, cette grande question porte elle-même sur une variété de phénomènes dont l'importance est perçue comme cruciale pour la suite du récit. Intégration, domination et faillites économiques. Marginalisation, soumission, contrôle politique. Assimilation, dépendance, hégémonie culturelle. Il s'agit donc d'une série d'interrogations sur une relation de plus en plus inégale dans laquelle l'Empire ottoman commencerait à perdre pied devant l'ascendant de l'Occident, se sentant dès lors obligé à imiter et épouser les principes et institutions d'un puissant concurrent dont il ne parvient pas, qu'il n'arrive plus à tenir en respect, voire même d'un formidable ennemi dont il ne parvient plus à se défaire. C'est donc l'occidentalisation et la modernisation qui en découlent qui posent problème. Certains, comme Bernard Lewis, dans son célèbre « What went wrong », dont le point d'interrogation final était purement rhétorique, ont tout simplement réduit la question à une anomalie de l'Orient et surtout de l'islam, incapable de se réformer et de s'ouvrir au développement. À l'autre extrémité, Edward Said, au contraire, a démontré que l'Orient avait été en quelque sorte victime d'une double injustice au travers d'un impérialisme de fait et d'une objectification intellectuelle fondée sur l'orientalisme. Il est important de noter que l'Empire ottoman est en grande partie passé entre les mailles de ce filet. Lewis a de tout temps considéré que la Turquie était à donner en exemple au reste du monde islamique pour sa réussite. Et Saïd n'a pas vraiment fait de place à l'Empire ottoman dans son survol des victimes de cette construction intellectuelle de l'Occident. Cela donne en principe aux ottomanistes une précieuse marge de manœuvre. Certains l'ont utilisé pour atténuer l'impression de déséquilibre en insistant sur les modernités et sur les résistances locales. D'autres, au contraire, y ont vu les traces d'une rupture profonde de nature quasi coloniale. sans m'engager de manière exclusive dans l'une ou l'autre de ces voies, et fidèle à mes remarques préliminaires sur mon désir de remettre le moment et le document à l'honneur, je me propose de naviguer, de me faufiler en quelque sorte, de manière assez impressionniste à travers ces deux siècles d'histoire, en suivant l'entrecroisement de diverses formes de modernité à travers un choix personnel, et donc arbitraire, de documents tirés de mes propres travaux et recherches. Il me semble que ce compromis entre la synthèse et le détail pourrait illustrer avec quelques succès cette histoire complexe et plurielle, et, à défaut de pouvoir y répondre, permettrait de poser quelques questions pertinentes sur le va-et-vient constant entre les dynamiques locales et extérieures des modernités. Évidemment, le XVIIIe siècle est une période particulièrement ambiguë du point de vue de la modernité. Certains y ont vu un tournant décisif durant lequel les Ottomans découvrirent, sans pouvoir les épouser entièrement, les premiers principes de la modernité européenne, surtout française. De ce point de vue, ce siècle aurait été particulièrement marqué par une puissante combinaison de curiosité et de désespoir, constituant ainsi une sorte de prélude aux transformations radicales du siècle suivant. Les défaites militaires, la découverte des progrès occidentaux, la naissance d'une domination commerciale européenne auraient ainsi contribué à sortir l'Empire de sa torpeur nombriliste d'antan et le mettre sur la voie de la réforme. Cette vision est particulièrement grevée par une téléologie moderniste où l'on commence à voir l'ébauche d'un conflit entre les forces du bien, lire progrès et modernité, et celles du mal, lire réaction et fanatisme. Défiant cette vision est apparue une interprétation plus contextuelle de cette période qui, tout en reconnaissant l'existence d'influences et d'inspirations occidentales, n'entend pas moins d'y discerner les signes d'une modernisation interne et locale permettant de la relier au passé sans avoir à l'expliquer par des événements à venir. Mes travaux sur le commerce français à Istanbul au XVIIIe siècle s'inscrivent dans cette ambiguïté, puisqu'ils documentent à la fois une croissance extraordinaire de l'activité et de l'emprise des négociants français sur le marché ottoman, mais dévoilent aussi que cette croissance restait marginale par rapport à l'étendue réelle de l'économie locale et à la résistance des acteurs locaux. C'est donc d'une domination marginale et fragile qu'il s'agit, et ce paradoxe s'explique par le fait que c'est essentiellement par des moyens diplomatiques et politiques que les Français parviennent à s'incruster dans un contexte qu'ils ne peuvent encore dominer économiquement. S'ils paraissent sûrs d'eux lorsqu'ils parlent du, je cite, « tribut que paye l'Empire ottoman à l'industrie nationale », c'est ce qu'ils disent en 1790, ou lorsque l'ambassadeur Choiseul Gouffier lui-même, même période, qualifie la Turquie d'une des, je cite, « plus riches colonies de la France », il faut y voir un mélange de satisfaction et de vœux pieux. Certes, sous le régime des capitulations désormais nettement avantageuses aux Occidentaux, apparaît en filigrane une ébauche des équilibres à venir. Cependant, les dés ne sont pas jetés et tout est encore loin d'être irréversible. Et même le divorce qui semble s'instaurer entre l'État et les gros marchands et notables non musulmans qui se rangent sous protection étrangère est encore bien loin d'être consommé. Si l'économie résiste encore, il n'y a pas non plus de raison de parler d'une capitulation culturelle qui pourrait faire office de proto-occidentalisation. Certes, les contacts avec l'Occident se font peut-être de plus en plus fréquents, mais n'oublions pas qu'ils ont toujours existé, même sous la forme des échanges culturels et artistiques que l'on pense souvent être propres au XVIIIe siècle. On connaît de Mehmed Efendi, Yilmisekiz Mehmed Efendi, envoyé à Paris en 1720 en tant qu'ambassadeur extraordinaire, ces paroles qui traduisent sa réaction face à la splendeur des jardins de Marly. Voici un passage tiré du Mercure de France, où il dit « Oserais-je, mon très religieux empereur, vous déclarer ici qu'en voyant cet incomparable jardin, nous sentîmes la force du sens de ce passage de notre loi qui dit que ce monde est la prison des fidèles et le paradis des infidèles. » Les paroles en turc sont quelque peu différentes. Il s'agit de « Et dunya seccel mümin ve cennet il kafir hadis-i şerifinin mazmununun nükte illatif aşikar oldu. » Soit, nous avons compris le sens très fin du hadith, de la parole du prophète, selon lequel le monde est la prison du croyant et le paradis de l'infidèle. C'est une expression frappante qui justifie que le regretté Gilles Venston l'ait reprise pour en faire le titre de l'édition qu'il publia de cette relation d'ambassade. Mais lorsqu'on sait qu'il s'agit d'une parole, il est vrai d'une authenticité douteuse, attribuée au prophète Mahomet, faut-il vraiment y voir l'expression presque sacrilège d'une envie de modernité, ou plutôt la finesse d'un ottoman qui, tout en constatant la beauté des lieux, je vous donne la citation en turc, qui, tout en constatant la beauté des lieux, rappelle ce vieil adage sur la futilité de ce bas monde avec une pointe d'humour et un clin d'œil que le contexte français rende particulièrement subtil. Il ne fait aucun doute que les Ottomans ont allègrement pioché dans le répertoire culturel, artistique et esthétique de l'Europe tout au long de ce siècle, mais ils ne s'en sont pas tenus là. Et ils se sont souvent aussi inspirés de modèles orientaux, persans et autres, à peu près de la même manière. On pourra donc, avec raison, établir un parallèle entre cet éclectisme et le goût européen pour les turqueries. Mais à condition de savoir que si l'on veut voir dans ces franqueries, entre guillemets, symétriques en quelque sorte des turqueries, un prélude à l'occidentalisation, il faudrait peut-être pouvoir répondre à la question de savoir pourquoi les turqueries ne préfigurèrent pas un processus d'orientalisation de l'Europe. Cette capacité à assimiler des inspirations diverses et variées et à les adapter à un contexte culturel impérial est en elle-même une preuve de modernité qui ne demande pas à être confortée et confirmée par une influence occidentale. C'est dans un domaine qui peut paraître marginal, mais qui se situe en fait au croisement de l'art, des mentalités, de la société et de l'idéologie, que j'ai pu observer cette riche flexibilité culturelle. Je veux parler de l'art funéraire, dont le développement très particulier au XVIIIe siècle me paraît illustrer à merveille cette versatilité et capacité d'innovation de la culture ottomane. Je pourrais donner en exemple le passage à des dimensions quasi monumentales, l'adoption de décors de plus en plus fleuris et de plus en plus baroques, la croissance démesurée de l'épitaphe ou le glissement systématique d'un contexte religieux vers un contexte profane. Sans la moindre influence occidentale, les cimetières musulmans de la capitale se font, au XVIIIe siècle, le miroir d'une société de plus en plus complexe, de plus en plus hiérarchisée, de plus en plus différenciée et de plus en plus séculière. Et pourtant, ce XVIIIe siècle s'achève sur une note inquiétante. Plus que tout autre événement, l'invasion de l'Égypte par Bonaparte semble bien avoir bouleversé les équilibres normaux de la région. La perte de la plus riche province de l'Empire, le joyau de la couronne en quelque sorte, est déjà un choc très grave. Mais l'impuissance de la Porte devant cette agression ne le rend que plus traumatisant encore. Les paroles de Selim III à l'annonce de cette nouvelle en disent long sur cet abattement. Je cite « Cela fait 6 ans que les mécréants nous trompent. Peut-être devrions-nous aussi les tromper pendant 6 mois et nous occuper de nos propres affaires. » Quelques années plus tard, après que les Anglais aient chassé les Français de l'Égypte et reconquis la province au nom des Ottomans, et que les relations franco-turques aient été rétablies, c'est ce même Selim III que nous devons un des premiers indices touchant par sa naïveté d'un sérieux revirement des mentalités. Ayant reçu un portrait de son ancien ennemi, désormais allié et empereur, il écrit ces quelques lignes à l'intention de son grand vizir. Je traduis « Mon vizir, les cadeaux de l'empereur de France m'ont bien plu et j'ai particulièrement apprécié son portrait. C'est un grand témoignage d'amitié et de sincérité que de m'envoyer son portrait. Tu ne le sais pas, mais c'est une coutume bien établie en Europe que d'échanger des portraits entre amis. Il est clair que le modèle européen commençait à pénétrer la culture ottomane par le haut, ce qui n'avait rien d'exceptionnel, mais d'une manière nouvelle qui risquait de remettre en question la validité de normes et de valeurs bien établies. Le témoignage le plus parlant et le plus direct que j'ai jamais vu de ce revirement radical est de la plume de Halet Efendi, ambassadeur de Selim III à Paris sous l'Empire, témoin du sacre de Napoléon, le voici, derrière la tenture. Halet Efendi entretenait une correspondance avec ses amis restés à Istanbul et par laquelle il les informait des abominations dont il était témoin dans cette ville de perdition. Car, contrairement à son prédécesseur Mehmed Efendi, il ne trouvait rien de bien paradisiaque à Paris. Une de ses lettres est particulièrement instructive. Je le cite en français. « Tous les Arméniens et les Grecs du monde ne cessent de dire que tous les musulmans sont des pédérastes, que c'est une vraie honte et que Dieu nous en garde. Si une telle chose n'arriverait jamais en Europe, mais que si cela devait arriver, les auteurs en seraient immédiatement brûlés. À force de nous l'entendre dire, nous avions fini par y croire. » Or, continue Halet Efendi en expliquant à ses correspondants, il n'en était rien. Bien au contraire, il avait découvert au palais royal que les Européens étaient tout aussi, si ce n'est plus, adonnés au vice. Voici une image qui me plaît bien parce qu'on peut imaginer que le petit oriental dans le coin serait Halet Efendi. Il en voulait pour preuve la longue description de la prostitution masculine et féminine qu'il y avait observée. Lisez bien ce passage à Hoxha Abraham, disait-il en conclusion de sa lettre. Hoxha Abraham étant un titre typique qui identifie un sarraf, un banquier arménien. Dieu soit loué. Il n'y a guère autant de sodomites et de pédérastes dans les terres d'islam. Rajoutons, pour la petite histoire, que Halet Efendi dut être rappelé quelques années plus tard pour débauche et conduite inconvenante. Aussi anecdotique qu'elle puisse paraître, cette lettre n'en est pas moins un document exceptionnel parce qu'elle révèle des changements radicaux survenus dans les mentalités ottomanes. Bien qu'il ne fût guère partisan d'un Occident qu'il jugeait corrompu et néfaste, Halet Efendi dévoilait ainsi une vision du monde qui était désormais fortement imprégnée des normes et des valeurs européennes. Il avait perdu l'assurance de ses prédécesseurs. Ce que l'Europe disait de lui et de ses compatriotes était désormais d'une très grande importance. Complexé face aux accusations d'homosexualité, il n'avait d'autre recours que de tenter de retourner le discours hétéronormatif occidental contre ses délateurs. De plus, à ses yeux, les non-musulmans de l'Empire, je vous rappelle le début de sa lettre où il dit « tous les Arméniens et les Grecs du monde disent que », de plus, donc, à ses yeux, les non-musulmans de l'Empire avaient désormais acquis une identité qui les poursuivrait jusqu'à la fin de l'Empire. Celui de relais et de collaborateurs de l'Europe, sorte de prélude aux accusations de cinquième colonne qui ne tarderait pas à finir de ternir leur image aux yeux des musulmans. C'était là un tournant décisif, un point de non-retour. L'Europe était désormais un élément incontournable de la vision qu'avaient les dirigeants ottomans du destin de l'Empire dont ils avaient la charge. Cette réalité politique, vieille de plusieurs siècles, avait maintenant acquis une dimension culturelle et idéologique incontournable. Il n'était plus question de faire sans l'Europe et sans ses idées, même si c'était parfois pour les adapter, pour s'y opposer, voire même pour les dénaturer. C'est ainsi que j'ai très récemment découvert un exemple fascinant d'une telle opération par laquelle Shahnizadeh Mehmed Ataullah Efendi, historiographe de l'Empire dans les années 1820, connu pour ses tendances réformistes, voulant impressionner son maître, le sultan Mahmoud II, ne trouva rien de mieux que de traduire l'article « Histoire » de Voltaire dans l'encyclopédie pour en faire une préface à son propre ouvrage. Seulement, ce plagiat, car bien sûr, il ne disait pas quelle était sa source, n'avait nullement respecté le texte original. Au contraire, Shahanizadeh avait tout simplement piraté le philosophe pour s'approprier ses idées et après les avoir vidées de leur contenu subversif de manière à les rendre acceptables et compatibles avec un contexte conservateur ottoman. Cette modernité opportuniste et ce souci de concilier tradition et modernité ne cesseraient de sous-tendre les réformes ottomanes. Il serait probablement faux de n'y voir que malice ou vice. D'un certain point de vue, c'est précisément ce pragmatisme et cette flexibilité qui ont rendu possible des avancées surprenantes dans la voie de cette modernité entre deux. Un des exemples les plus frappants que j'ai rencontré de cette extrême malléabilité est à l'origine de la carrière extraordinaire d'un de mes personnages fétiches du XIXe siècle. Mon homonyme, Etem Pacha, enfant rescapé du très iconique massacre de Kio, ce jeune captif grec fut converti puis élevé par son maître, le grand amiral Husrev Pacha, lui-même un produit abrase de l'esclavage d'État à l'ancienne. Pourtant, grand admirateur de la poussée moderniste du sultan Mahmoud II, le vieux Pacha n'avait pas hésité, pour parfaire l'éducation de son jeune esclave, à l'envoyer faire ses études à Paris, à l'école des mines. Le jeune Etem en revint ingénieur et fut happé par une carrière bureaucratique qui le mena jusqu'au grand vizirat en 1870. Le voici pendant ses années parisiennes. C'est le petit à gauche. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce personnage. Pour le moment, il suffira de se souvenir de ce cas comme d'un exemple significatif de la capacité de la machine étatique ottomane à s'accommoder d'une modernité à deux temps, qui, tout en se nourrissant du système préexistant, parvenait à s'adapter aux exigences d'un monde nouveau. La première génération des hommes d'État des Tanzimat, cette période de réforme allant des années 40 aux années 1870, sont là pour témoigner de cette relative facilité avec laquelle la bureaucratie sut s'approvisionner et s'enrichir en exploitant un réservoir humain des plus traditionnels et des plus variés. La modernité de la première moitié des Tanzimat, donc environ de 1840 à 56, fut par conséquent caractérisée par une certaine fluidité dans la transition et la coexistence des deux systèmes. Il est vrai, les exigences de l'occidentalisation étaient relativement douces et en grande partie formelles. Vêtements, uniformes, architecture, urbanisme, technologie, institutions, organisation, bureaucratie, monnaie. Bref, rien qui ne s'opposât radicalement aux dynamiques d'un État et d'une société qui était déjà habitué à des changements considérables depuis des siècles. Certes, la référence presque systématique aux normes et aux systèmes européens était encore un peu inhabituelle, mais elle se justifiait et se légitimait par l'adoption d'un discours universaliste centré sur la nouvelle et très attrayante notion de civilisation, medeniyet en turc. Mes travaux récents sur la naissance ô combien modeste d'une pratique archéologique ottomane dans les années 1840 et 1850 révèlent la présence constante d'un leitmotiv civilisationnel pour expliquer le pourquoi d'une activité dont l'utilité était de toute évidence encore douteuse aux yeux des dirigeants. Et je cite quelques passages typiques. Comme il se fait parmi les nations civilisées, ou bien comme il est d'usage dans les pays civilisés. Cet aveu, qui peut paraître naïf, d'un désir de se civiliser, peut faire sourire. Mais il faut comprendre qu'il dénote quand même une attitude assez décomplexée, dont la majeure faiblesse est de ne pas et de ne voir guère plus dans ces institutions culturelles et scientifiques qu'un cahier des charges d'une entreprise de civilisation. Ce n'est vraiment que dans la seconde moitié du XIXe siècle que la question de la modernité perdra peu à peu son innocence et sa fluidité et commencera à peser de tout son poids sur le climat politique et idéologique de l'Empire. Il n'y a vraiment pas de mystère. C'est autour de la question des communautés religieuses non musulmanes et de leur intégration politique, juridique et civique au sein de l'Empire que les plus graves tensions et conflits commencèrent à prendre corps. La diversité de la population de l'Empire avait un long passé. En fait, elle était aussi vieille que l'Empire, dont le système avait su gérer cette complexité ethnique et confessionnelle avec plus ou moins de bonheur selon les circonstances. D'une manière générale, ce système reposait sur le maintien de l'inégalité par l'équité et la gestion de la diversité par la limitation de la mobilité. L'occidentalisation, tout en amenant un plus grand brassage des populations, n'était guère préparée à gérer cette situation quelque peu exceptionnelle. L'Europe elle-même ne connaissait pas de tel mélange en dehors de ses colonies. Ainsi que semble le suggérer une étonnante publicité insérée dans le journal de Constantinople en janvier 1848, où le grand bazar parisien s'adressait à une clientèle qu'il définissait étrangement comme, je cite, et vous pouvez le lire, « messieurs les Grecs, Arméniens, etc. » Il était clair que ce que la modernité exigeait était que fusse reconnue l'égalité de tous devant la loi, musulmans, chrétiens, juifs et jusqu'à tous les etc. que l'on pouvait rencontrer dans cet étrange pays. Bien entendu, ces rêves d'égalité allaient à l'encontre du système ottoman qui fonctionnait sur la base de l'équité, foncièrement différente par son fondement inégalitaire. Les premières réformes des années 1840 avaient déjà causé le mécontentement des musulmans suite à la création d'assemblées locales et régionales où siégeaient des non-musulmans presque sur un pied d'égalité avec la nation dominante, Millet Hakimeh. L'édit de réforme de 1856, répondant en grande partie à une attente européenne, enfonça le clou en décrétant l'égalité de tous les sujets, provoquant des réactions au sein des musulmans, dont la plus innocente était rendue par cette fameuse anecdote selon laquelle les autorités s'évertuaient à expliquer au peuple musulman que la loi leur interdisait désormais d'appeler les mécréants des mécréants. Une anecdote diplomatique rend bien le décalage entre les perceptions occidentales et locales du projet d'une nation ottomane. En 1867, l'ambassadeur de France Bourré, c'est son nom, rendait compte au ministère d'une conversation qu'il avait eue avec Fouad Pacha, alors ministre des Affaires étrangères. Le pacha ayant évoqué que désormais musulmans et chrétiens ottomans devraient avoir une même patrie, Bourré avait rebondi sur ce dernier terme, celui de patrie. Je cite « Convenez, dis-je en riant, il écrit au Quai d'Orsay, convenez, dis-je en riant, que nous sommes si loin de la chose que le mot n'existe même pas. Vous-même, qui êtes-vous ? Mais je suis turc, répondit gaiement Fouad Pacha. « Pas du tout, répliquai-je. Vous me répondez là par une locution européenne. À un compatriote, vous ne diriez pas « je suis turc » car vous attachez à ce mot une idée de barbarie. De quelque partie de la France ou de l'Angleterre qu'on soit originaire, on est français ou anglais. Chez vous, le mot manque. Interrogé sur sa nationalité, un des sujets du sultan. Il vous dira qu'il est musulman ou chrétien, osmanli, grec, arménien, arabe ou kurde, car aucune dénomination commune ne les rattache à l'État auquel ils appartiennent, lequel, chose bizarre, n'a pas de nom non plus. Car dans votre langage officiel et géographique, la Turquie s'appelle Mema Aleke Mahrusa, ce qui veut dire littéralement les pays bien défendus, ou Mema Aleke Shahane, possession royale. Vous ne pouvez faire avec cela un nom de nationalité, un nom de patrie pour les sujets du sultan. Or, si vous n'avez pas le mot, mon cher ministre, comme entre les mots et les pensées il y a un lien incontestable, c'est que jusqu'à présent, vous n'avez pas eu la chose. Les deux décennies précédant la fameuse constitution de 1876 constituent une période fascinante. une sorte de montagne russe marquée par des insurrections, des sociétés secrètes, des envolées spéculatives, des krachs boursiers, des coups d'État, des avancées culturelles, des quêtes artistiques, des mouvements libéraux, des soulèvements réactionnaires. Bien des Ottomans durent apprendre à s'accommoder des tensions croissantes entre les exigences de la modernité occidentale et les valeurs locales, souvent qualifiées à tort de traditionnelles. Pour certains, tel Osman Hamdi Bey, fils justement de l'enfant de Kyo, donc c'est un second fétiche pour le XIXe siècle, ce fut l'occasion de se découvrir un profil super-occidentalisé, pour reprendre l'expression de Sherif Mardin, et de donner libre cours à une vision orientaliste de son propre pays. Pour la plupart, ce dualisme était cause d'hésitation. Pour illustrer cela, je donnerai l'exemple du prince impérial Salahaddin Efendi, dont les écrits personnels reflètent bien les dilemmes et les confusions qui hantaient l'esprit de bon nombre d'Ottomans. Se souvenant d'une discussion, c'est dans ses mémoires, se souvenant d'une discussion qu'il avait eue avec son maître d'arabe, qui lui avait donné comme exemple grammatical, Dieu sait pourquoi, une phrase qui qualifiait les chrétiens d'inférieurs aux animaux en raison de leur croyance en la Trinité, Salahaddin raconte comment, après avoir tenté de prouver le contraire par des arguments théologiques, il s'était enfin écrié « Comment peut-on voir un animal en Voltaire ?» Et peut-on traiter Victor Hugo d'inconscient ? L'année 1876 marque un nouveau tournant décisif dans le destin de l'Empire, probablement celui dont les conséquences ultérieures seront les plus néfastes. Les 20 années précédentes avaient été dominées par une tension politique caractérisée par les tentatives répétées d'une opposition de tous bords d'imposer un régime constitutionnel qui mettrait fin aux velléités autocratiques des sultans. Le chaos politique de l'année 1876 et la montée en puissance de Mithat Pacha, champion du constitutionnalisme, laissait espérer que le temps était enfin venu pour une expérience constitutionnelle. Mais l'instabilité causée par un nouveau conflit dans les Balkans et la dépression nerveuse du nouveau sultan Mourad V rendaient la chose difficile. D'ailleurs, une partie de la vieille garde voyait d'un mauvais œil ce projet jugé trop hâtif. Etem Pacha, l'enfant grec, devenu maintenant ambassadeur à Berlin, était de ceux-là. Et dans une lettre adressée à Safet Pacha, alors ministre des Affaires étrangères, il expliquait un peu sa version de la modernité. Je le cite en turc parce que c'est presque compréhensible. « Bize konstitusyon değil, enstitusyon lazım. » Ce n'est pas une constitution qu'il nous faut, mais des institutions. Pourtant, cette constitution qu'il redoutait tant finit par être proclamée dans des conditions pour le moins étranges. En 1876, devant la tentative des grandes puissances de pacifier les Balkans en réunissant une conférence pour imposer une forme de tutelle européenne sur les provinces balkaniques de l'Empire, Mithat Pacha avait pensé que la Constitution, telle une botte secrète, forcerait les délégués européens à lâcher prise. Il avait tout mis en scène, alors que les délégués étaient réunis, et Etem Pacha était l'un d'eux. En un coup de théâtre, des salves d'artillerie saluent la proclamation de la Constitution qui devait régénérer l'Empire. Les délégués étrangers ne furent pas dupes et poursuivirent leur politique comme si de rien n'était. Au bout d'un mois, la conférence se termina sans les résultats escomptés. La fameuse scène de la proclamation de la Constitution le 23 décembre 1876 dans l'illustration. Les délégués étrangers donc ne furent pas dupes et poursuivirent leur politique comme si de rien n'était. Au bout d'un mois, la conférence se termina sans les résultats escomptés. Et le gouvernement ottoman se retrouva chargé d'une constitution bâclée et confronté au danger imminent d'un conflit avec la Russie. Ce fut probablement là une des plus grandes occasions manquées de la modernité ottomane. Une constitution solide et appliquée dans des circonstances normales aurait pu, sinon régler, du moins donner une chance à l'intégration politique d'un projet national ottoman. Au contraire, cette opération prématurée, doublée d'une campagne désastreuse contre la Russie qui amena l'Empire à deux doigts de la destruction, fut la cause d'un revirement total de la situation. Profitant du vide de pouvoir et de légitimité, le sultan Abdulhamid, le futur sultan rouge, abrogea la constitution et s'empara des rênes du gouvernement pour établir les fondements de son régime autocratique. Non sans ironie, il semble bien qu'Etam Pacha ne pensait pas si bien dire lorsqu'il prêchait le besoin d'institutions plutôt que d'une constitution. Abdulhamid II épousa de manière inconditionnelle cette version très particulière du progrès en s'engageant dans la voie d'une modernité presque sauvage qui sacrifiait les rares espaces de liberté de l'Empire à une course effrénée vers une mainmise systématique sur l'administration et sur la population. Les quelques ouvertures qui avaient vu le jour dans la direction d'un rapprochement des peuples et de la constitution d'une citoyenneté politique ottomane avaient laissé la place à des formes de répression violentes et systématiques qui rappelaient certains contextes coloniaux contemporains. Pendant les trois décennies de son règne, l'Empire ottoman vécut les affres d'une modernité mise au service d'un étrange mélange de progrès et d'oppression sociale. On ne s'étonnera donc pas de ce que la révolution jeune turque de 1908, qui mit fin à l'autocratie hamidienne, débuta comme un second printemps des peuples ottomans, prenant la relève de la bien trop courte expérience parlementaire de 1876. Moderne par sa rhétorique et par les années d'exil en Europe, certains de ses principaux acteurs et activistes, la révolution tenta d'adapter cette modernité à la culture politique locale en introduisant, par exemple, un quatrième terme à la devise empruntée à la Grande Révolution. Liberté, égalité, fraternité, hurriyet, musavat ou huvvet, bien sûr, mais il fallait à tout prix ajouter le terme qui avait le plus de sens dans la tradition locale. Adalet, justice. Équité. Une tradition qui, encore aujourd'hui, constitue une des différences majeures entre la culture politique turque et celle de l'Occident. Hélas, ce printemps fut de bien courte durée. Les lendemains de la révolution de 1908 prirent assez rapidement une tournure qui rappelait étrangement le grand fiasco de 1876. Cette fois-ci, à la place d'un souverain autocrate, c'est la montée en flèche des nationalismes, mais plus particulièrement du nationalisme turco-islamique, qui vint saper les fondations d'un édifice politique encore très fragile. Dans un climat d'hystérie provoqué par des conflits régionaux sanglants et meurtriers, l'euphorie des premières années céda le pas à une violence sans précédent. La panique et la dévastation de la Grande Guerre aidant, la phase finale de la formation de la nation ottomane vit le jour dans un véritable bain de sang organisé au nom de la survie de l'État. De cette horrible et ultime modernité naquit un embryon d'État, d'État-nation, fondé sur l'exclusion, voire même la destruction des populations non musulmanes au profit exclusif du noyau dur de la nation, désormais défini comme turc et musulman. J'avais inclus la Turquie dans le titre de ma conférence. Si je n'en ai pas parlé, c'est parce que je pense qu'elle était déjà bien présente dans mes propos et qu'elle se dessinait en filigrane dans ma discussion de l'Empire. La question des ruptures et des continuités entre l'Empire ottoman et la République de Turquie est un débat ouvert dans lequel je ne m'engagerai pas. Mais ce que je tiens à souligner, en revanche, c'est que les problèmes politiques que la Turquie a vécus pendant sa courte histoire et qu'elle continue de vivre en ces temps difficiles me paraissent s'inscrire, pour le meilleur et pour le pire, dans les rapports mouvementés et souvent problématiques que l'Empire ottoman a eu avec diverses formes de modernité durant le dernier siècle de son existence. Je vous remercie.
Toutes mes félicitations pour ce passionnant exposé. J'avais presque envie de faire une histoire parallèle avec mes propres sujets d'intérêt. Après tout, j'ai moi-même commencé sur le XVIIIe siècle, oui. Comme toi. Et justement, une des choses qui a été le plus frappant, c'était l'idée que les Européens voyaient un déclin de l'Empire, alors que quand on réinterprétait les formes politiques du XVIIIe siècle, il n'y avait pas de déclin. Il y avait une décentralisation extrême, ce qui faisait qu'à l'époque, tout jeune que j'étais, donc audacieux, j'avais osé parler de Commonwealth, ottoman pour le XVIIIe siècle, d'où le fait que la modernité ottomane, c'est un effort de recentralisation par rapport à ce Commonwealth dit 18e. Et on avait évidemment à cette époque-là, si je parle d'il y a trois décennies, des grands maîtres qui nous avaient expliqué que l'islam n'avait pas découvert l'Europe parce que ça ne les intéressait pas. Je pense à Bernard Lewis, dont il faudra un jour se libérer de bien des aspects. Or, Bernard Lewis restait inscrit dans le monde de l'écrit. En fait, ce qui était extraordinaire, c'est qu'il ne voyait pas ces milliers de renégats européens qui étaient dans tout l'espace de l'islam méditerranéen du XVIe au XVIIIe siècle. Le contact avec l'Europe était un contact via l'oralité, via la lingua franca, via la culture matérielle, qui faisait qu'en réalité, ces mondes communiquaient, non pas par l'écrit, parce que avant l'imprimerie, l'installation définitive de l'imprimerie dans l'Empire, c'était l'oralité qui comptait. Je crois que beaucoup de choses doivent être réinterprétées par le biais de cette culture orale qui a existé dans l'espace ottoman du XVIe au XVIIIe, qui continue ensuite, mais qui est probablement extrêmement négligée, parce que très difficile, en fait, percevoir. Quand un ami Prosper Bourré, que je connais bien, puisqu'il a été entre autres consul à Beyrouth dans les années difficiles de 1840, éliminé par Thiers parce que trop anti-égyptien, est restauré dans son poste par Guizot, parce que anti-égyptien. Donc Prosper Bourré, qui est en fin de carrière à Istanbul, et là, c'est le prototype du grand connaisseur. C'est une personne qui a tellement vécu en Orient qu'il ne peut pas croire ce que les Orientaux disent d'eux-mêmes. Mais le problème, c'est qu'il se trompe. Parce que ce que le grand vizir lui dit, c'est ce qui est en train de se produire. Et lui, qui a 30 ans ou 40 ans d'expérience de l'espace ottoman, ne veut pas croire ce que lui dit son interlocuteur. En tout cas, j'aurais mis une autre réflexion, mais il faut que c'est une réponse, et puis on laisse la parole à la salle comme il se doit.
Non, je voudrais simplement dire d'abord, pour souligner l'importance de tes travaux sur l'Égypte et sur l'expédition d'Égypte, je me souviens que l'un des premiers articles que j'ai rédigé, pas vraiment un article, c'était un compte-rendu des origines intellectuelles de l'expédition d'Égypte. J'ai dû faire ça dans les années 90, au début des années 90, pour une revue scientifique turque. Et bien sûr, cette idée du Commonwealth, je crois qu'elle colle tout à fait avec la réalité ottomane du XVIIIe siècle. Les Ottomans, plus ou moins consciemment, ont réussi à maintenir leur empire au-dessus de la ligne de flottaison par cette décentralisation qui, plus qu'une simple décentralisation, est une sorte de pulsion, un système de pulsion par lesquels, selon les circonstances et selon les besoins, le centre se rapproche ou s'éloigne ou lâche un peu les rênes de la périphérie afin de gérer une reconnaissance, en tout cas nominale, de l'autorité du sultan. Et ça marche très bien. Et en gros, ce qui rend la tâche des Ottomans impossible, c'est un peu la modernité occidentale, c'est-à-dire le fait de devoir se mettre au pas d'une modernité étatique, nationale, etc. Et bien sûr, l'ironie, c'est que si l'Empire survit jusqu'en 1922 même, c'est essentiellement parce que l'Europe ne sait pas quoi faire des restes de l'Empire s'il venait à être détruit aussi. Enfin, ce que tu dis sur la culture orale, c'est tout à fait vrai, mais je dirais aussi que nous avons, et c'est, je crois, ce que j'ai essayé de montrer avec cette découverte concernant Shahrazadeh plagiant Voltaire, nous avons un sérieux travail de lecture intelligente à faire sur les sources écrites. Le fait qu'elles soient écrites ne les rend pas finales. Une source écrite est extrêmement complexe, c'est un procès. Il faut essayer de reconstituer l'archéologie des textes et comprendre ce que représentent vraiment ces textes plutôt que de les prendre simplement comme une sorte de surface rédigée de l'histoire de l'Empire. Et enfin, Bourré, oui, je crois que Bourré n'a rien compris, ou du moins, Bourré a une mission, c'est de civiliser l'oriental, et la civilisation passe par la constitution d'une nation. Or, le problème, c'est que les Français, ce qu'ils arrivent à faire par le système colonial, c'est-à-dire différencier la métropole des colonies et par conséquent créer un empire à deux vitesses, ça ne marche pas pour l'Empire ottoman. D'autant plus qu'il y a une inversion de la situation coloniale, puisque dans la situation ottomane, une grande partie de la périphérie est chrétienne. Et bon, donc il y a là un vrai problème, mais Bourré est tout à fait représentatif de la manière extrêmement carrée dont la civilisation et la modernité est comprise en Occident. Et ce qui est un peu navrant, c'est que beaucoup de bureaucrates ottomans vont y croire et vont œuvrer dans cette direction. En gros, ce que les jeunes Turcs finissent par faire après la Révolution et surtout après le coup d'État de 1913, c'est un programme de modernisation à l'européenne, puisqu'ils homogénisent la nation de la manière la plus terrible qu'il soit.